économique. C'est la richesse de la commune. Et mais, c'est la mort.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Allez, il est l'heure de parler économie avec le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Alors, dans quel sujet est-ce que vous allez nous emmener aujourd'hui ?
Alors d'habitude, je m'attache à être en dehors de l'actualité parce que je trouve que c'est une façon de faire de la contre-programmation. Mais là, le sujet que je voulais aborder est soudain arrivé dans l'actualité puisqu'on va parler des vaccins anti-Covid et de la notion de propriété intellectuelle de bien public mondial. Alors, cette question, c'est quoi ? C'est un vaste débat. Faut-il faire de ces vaccins anti-Covid un bien public mondial, traduction, un bien qui ne soit pas la propriété des grands groupes pharmaceutiques via les brevets qu'ils détiennent ? Parce que les différents pays occidentaux ont beau avoir à eux tous financé les deux tiers de la recherche sur le vaccin anti-Covid, donc pour un coût global quand même de 30 milliards de dollars, il n'en reste pas moins vrai que ce sont les grands labos pharmaceutiques qui détiennent seuls la propriété intellectuelle de ces vaccins.
Et donc pour chaque dose, il faut payer le...
Exactement, ouais, petite royalties, on pourrait dire, c'est ça. Pourtant, ces labos n'auraient jamais pu trouver ces vaccins sans cet argent public massif. Alors en mai 2020, on a plusieurs chefs européens de l'Union européenne, dont Emmanuel Macron, qui avaient annoncé que les vaccins anti-Covid seraient un bien public mondial et qu'ils ne seraient pas la propriété des groupes privés. Ceci afin que l'ensemble de la population mondiale puisse en profiter. Formidable. Mmh. Bon, on va faire un petit temps mort, hein, comme au basket, et on va dire c'est quoi un bien public mondial, parce que quand même qu'on précise un petit peu.
Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que ça existe vraiment ?
Ça existe, mais tu vois que c'est une notion un peu compliquée, un peu bancale en fait. C'est une notion bancale. Alors elle est dérivée d'une notion qui, elle, est beaucoup plus précise, la notion de bien public tout court. Un bien public, c'est quoi ? C'est un bien dont la consommation n'empêche pas un autre acteur de le consommer. Exemple, j'écoute la radio dans ma bagnole, j'écoute devine quoi, Radio Calade,
ouais.
Et ben j'empêche personne d'écouter aussi Radio Calade en même temps.
C'est vrai.
Premier critère. Deuxième critère. C'est un bien public pour lequel on ne peut pas empêcher qui que ce soit de le consommer. Je peux pas aller chez mon voisin et dire « tu n'écoutes pas Radio Calade, sinon je te tape ». Non, non, on n'a pas le droit. Donc la radio est aussi, répond au deuxième critère, et donc un bien public. Bon, le problème c'est que les vaccins ne répondent pas au premier critère. Quand on m'a injecté une dose de vaccin à moi, la même dose, on ne peut pas l'injecter à quelqu'un d'autre. D'accord ?
Oui.
Alors on pourrait dire, bon, on va tricher un petit peu, on va regarder sur le global de la quantité de vaccins. Bah oui, mais le problème se pose sur le global de la quantité de vaccins, puisqu'on sait qu'on n'en a pas assez pour vacciner l'ensemble de la population au jour d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas français d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc la question des capacités de production constitue un enjeu majeur, hein, d'accord ? Mais venons-en au second critère. Le second critère, c'est celui qui va mettre sur le devant de la scène la question des brevets, puisqu'en fait, c'est avec un brevet qu'on peut... Un laboratoire peut empêcher un pays de fabriquer de vendre de son vaccin, puisqu'il n'en a pas la propriété intellectuelle. Alors, face à ça, il existe un mécanisme depuis l'année 2001 qui a été validé par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. C'est un mécanisme qui s'appelle l'exception de licence obligatoire, ou alors licence d'office. Alors, ça a permis, à l'époque, à l'Inde, de produire des médicaments génériques contre le sida. Et ces médicaments utilisaient des brevets privés sans avoir à obtenir l'autorisation préalable des labos pharmaceutiques propriétaires de ces brevets et sans même payer de royalties. Alors note bien quand même, Mathieu, que la propriété des médicaments restait quand même dans les mains des labos pharmaceutiques. Mmh. D'accord ? On n'est donc pas complètement conforme à l'idée d'un bien public mondial, mais c'est quand même une voie possible pour résoudre la question du Covid. Sauf que...
souvent, il y a un sauf que. Hein,
voilà. Attend. Il attendait son sauf que, Mathieu, donc je lui ai donné. Voilà. Sauf que depuis un an, ce sont bien les États européens, tout autant que les États-Unis et le Royaume-Uni, qui refusaient d'appliquer cette exception de licence obligatoire. Alors pourquoi ? On va appeler un chat, hein, Mathieu.
Ouais.
Hein ? D'accord ? Pour protéger les intérêts de leurs amis des grands labos pharmaceutiques.
Ah bon, on ne s'attendait pas.
Ouais, c'est vrai. Alors avec des arguments qui sont repris dans le manuel du petit lobbyiste fourni par les labos, hein. J'ouvre les guillemets. Ce ne sont pas les brevets qui bloquent la production, c'est le manque de savoir-faire des pays. Fermons les guillemets. Alors on va quand même écouter l'argumentaire, hein, même si ça vient du manuel des lobbyistes. Ça pose la question des transferts de compétences et de technologies qui sont indispensables pour que les pays en développement puissent prendre en main la fabrication de ces vaccins. Et il est vrai que même un pays comme l'Inde, qui est doté d'une vraie industrie pharmaceutique, n'a pas la maîtrise technologique pour fabriquer des vaccins ARN. D'accord ?
Oui.
Donc c'est pas complètement faux cet argument.
D'accord.
Sauf que, deuxième sauf que, sauf que les grands labos pharmaceutiques, ils sont pas non plus enthousiastes à l'idée de ces transferts de technologie. ils sont pas chauds non plus parce que leur compétitivité dépend autant de ces transferts du moins de cette maîtrise technologique que des brevets. D'accord, eh oui. Ouais. En tout cas, il s'agit pour eux donc quelque part de préserver les conditions de l'économie de marché, les conditions de concurrence, de compétition et de capacité à générer des profits. On va peut-être leur rappeler à ces petits chéris des grands labos hein, que les deux tiers du financement du Covid sont venus de l'argent public. D'accord ? Ouais. Donc, est-ce qu'on n'est pas complètement sorti du cadre habituel de l'économie de marché ? Je pense que la réponse est oui, on est sorti malgré tout. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre, ces braves gens.
Ouais, ouais.
Bref, pour Big Pharma et les alliés européens, il était urgent de ne rien faire. Alors, on va parler d'une autre initiative de grande ampleur, hein, à côté de cette première, une autre initiative qui s'appelle le COVAX. Le COVAX, c'est un dispositif qui est financé par l'ONU et qui a été organisé, qui est organisé, c'est en cours, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le but, c'est de garantir l'égalité d'accès aux produits de diagnostic, de traitement et de vaccins contre le Covid, égalité d'accès à tous les pays du monde, notamment les plus pauvres.
Ouais.
L'objectif précis du COVAX, c'est de mettre 2 milliards de doses de vaccins à disposition de tous les pays d'ici la fin de l'année 2021.
D'accord.
D'accord, c'est ambitieux.
Oui.
Alors, d'un côté, les plus grands pays ont participé à son financement. Hein. L'Union européenne a lâché 850 millions d'euros. Les États-Unis ont lâché le double, 1,6 milliard d'euros. Donc, c'est bien. Mais les pays occidentaux ont tous géré leur approvisionnement en vaccins en dehors de ce dispositif. Ils se sont fait fournir directement par les grands labos pharmaceutiques. Par exemple, 96% des doses de vaccins Pfizer ont été livrées, devine-nous, aux États-Unis et en Union européenne. Bref, ça relativise énormément le principe fondateur du COVAX qui est garantir un égal accès aux vaccins à tous les pays du monde. Bref, on en reste toujours à ce qui se pratique systématiquement en cas de crise sanitaire. Les pays en développement sont toujours les derniers servis.
Bien sûr, oui.
Ça s'est produit déjà dans le cas du VIH, ça s'est produit dans les cas des hépatites, dans le cas des tuberculoses, c'est systématiquement la même chose. On est donc, Mathieu, tu l'as compris, très loin de la logique des vaccins bien publics mondiaux. Mais, on ne va pas s'arrêter là.
Ouais.
Voilà un coup de théâtre qui est arrivé il y a quelques jours. Et le coup de théâtre est très récent, hein, c'est ce week-end. Le président américain Joe Biden vient d'annoncer qu'il était favorable à la levée de la propriété intellectuelle sur ses vaccins afin d'accélérer la production mondiale. Bref, il est favorable à l'idée de bien public mondial, vaccin bien public mondial.
Ouais.
Formidable. Il appelle à rédiger une dérogation généralisée et temporaire, de 5 ans par exemple, sur leur propriété intellectuelle. L'idée que pendant 5 ans, il n'y a plus de propriété intellectuelle dans les mains des grands labos. Cette décision, tu t'en doutes bien, suscite une levée de bouclier de la part des pays européens qui étaient justement réunis la semaine dernière à Porto. Emmanuel Macron, dans un exercice de double langage qui relève du grand art,
un génie, là.
A affirmé à la fois que les Européens sont d'accord pour faire de ces vaccins des biens publics mondiaux, mais en même temps que ça ne sert à rien. Pour lui et pour les Européens en général, la priorité, disent-ils, c'est d'exporter massivement les vaccins produits. Ce qui leur permet de mettre en avant le fait que l'Union européenne est l'institution internationale qui a le plus exporté de vaccins vers les pays en développement. C'est vrai, hein. 50% des 400 millions de doses produites en Union européenne ont été exportées. Alors qu'en face, les États-Unis, jusqu'à il y a très peu de temps, interdisaient l'exportation de vaccins produits sur leur territoire anti-Covid. Ils ont annoncé seulement le 26 avril qu'ils allaient débloquer la livraison à l'étranger de 60 millions de doses de vaccins. 60 contre 400, on est encore loin du compte. Donc on a d'un côté la tactique de com' de l'Union européenne face à la proposition de Biden qui consiste à s'abriter derrière l'urgence incontestable de la situation. Il faut que les vaccins arrivent le plus vite possible dans les pays en développement. Mais ça permet d'en rester à la politique habituelle de la charité.
Ouais.
Hein, on offre les vaccins à ces pauvres pays malheureux en développement. Pour surtout ne rien changer quant à la question de la propriété intellectuelle.
Ouais.
Et en rester à business as usual. Et repousser la question du vaccin bien public mondial au calendrier grec.
Mais s'offrir quand même des petits effets d'annonce au passage.
Alors, ils sont un peu embêtés parce que pour l'instant, l'effet d'annonce, c'est plutôt Biden qui en bénéficie.
Ouais.
Et la question, c'est est-ce que la déclaration de Biden est un effet d'annonce et aussi un coup de com' ou est-ce que ça va vraiment faire bouger les choses? Et là, les semaines à venir nous le diront en quelque sorte. D'accord? Donc, en conclusion à cette situation où on en est là à l'instant T, je ne peux pas aller plus loin. Je vais laisser la parole à Pauline Londex. C'est une dame qui est cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. J'ouvre les guillemets. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit « C'est une faute éthique et morale terrible. Les multinationales des pays du Nord n'étaient pas en capacité de produire suffisamment de doses très vite, aussi bien pour nos pays et encore moins pour le reste du monde. Pourtant, les pays du Nord ont empêché d'autres pays d'apporter leurs solutions. C'est dramatique. Fermons les guillemets. Elle a tout à fait raison. J'en ai fini, Mathieu.
Et on va rester là-dessus, effectivement. Elle a tout à fait raison. Merci beaucoup, Patrick.
Bonne journée.
À très bientôt.
Ensemble sur Calade.